Bonjour tout le monde, bienvenue à Berceuse dans le noir de Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode dans cette spooky season, dans cette saison de l'horreur. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, et d'autant plus lorsqu'on est dans cette saison lugubre. Parlant de lugubre, aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires. Parmi ces histoires, l'une est vraie. Saurez-vous deviner laquelle? J'ai bientôt terminé ma longue et paisible vie. J'ai 89 ans, puis j'en ai vu des affaires. Surtout considérant le fait que j'ai passé près de 50 ans à occuper le prestigieux poste de prêtre dans ma région natale de Québec. J'ai toujours été un homme de foi et j'ai toujours cru en Dieu. J'ai certainement commencé à croire en Satan après cette visite-là. C'était le début du mois d'octobre et j'ai reçu l'appel d'une mère qui était visiblement très affolée. Elle me mentionne qu'elle est persuadée que son fils, âgé de 13 ans, est possédé par le diable. Faut savoir qu'à cette époque, c'était beaucoup plus fréquent de recevoir ce genre d'appels et qu'ils n'étaient pas tous fondés. Je suis assez vieux pour me rappeler de l'époque où les gens n'avaient pas conscience de l'existence des problèmes mentaux et où ceux qui malheureusement souffraient d'épilepsie ou d'autres problèmes quelconques pouvaient passer pour des sorciers possédés du démon. C'est donc rempli de scepticisme que je me suis rendue au domicile du petit Maurice de 13 ans. La famille de Maurice habitait sur une vieille ferme qui possédait depuis des générations. Si toutes les générations passées y avaient vécu sans anicroche, c'était encore plus clair pour moi. C'était un canular. Jamais je n'aurais pu me douter de l'horreur qui m'attendait au domicile des Tremblay. J'ai en premier été frappée de plein fouet par la putride odeur qui régnait dans la maison. C'était horrible. Je me suis même demandé si la famille n'avait pas conservé de la viande périmée trop longtemps, mais rapidement, j'ai compris que l'odeur venait de la chambre de Maurice. Le lit était complètement souillé. Il était imbibé de différents jus corporels qui dégageaient l'odeur en question. Et mon premier réflexe a été de penser que le jeune Maurice y souffrait soit de négligence intense, soit de problèmes mentaux tout aussi prenants. Je pense sincèrement que je me suis trompée. Quand je me suis avancée, le petit, qui dormait à point fermé, s'est retourné d'un coup sec. Comme dans les pires films d'horreur, ses yeux sont passés de fermés à complètement ouverts en une seule seconde. Ce qui était définitivement digne des films tels L'Exorciste, c'est le regard qu'il a posé sur moi. J'avais jamais vu des yeux aussi rouges et aussi noirs à la fois. C'était comme s'il tentait de m'avaler tout rond ou de m'assassiner, là, sur le pas de la porte. Est-ce que je peux entrer? Il n'a pas répondu. J'ai pris l'initiative d'entrer, puis là, je vous jure que c'est vraiment arrivé, mais j'ai été projetée au mur par une espèce de vent froid. Je sais que ça sonne exagéré, mais c'est vraiment arrivé. Le vent, il puait en plus. C'était pétride. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est la force qui m'a attaqué, qui dégageait cette odeur-là, ou s'il s'agissait de la puanteur du lit toilette. J'ai pas vu le petit Maurice cligner des yeux une seule fois. Puis moi, j'ai continué de soutenir son regard noir. Puis là, j'ai empoigné la croix que je porte toujours à mon cou. Savoir que les parents de Maurice en avaient tellement peur qu'ils m'ont laissé monter à l'étage accompagné de mon confrère sans même daigner monter avec nous. La mère, qui ne cessait pas de pleurnicher, m'a dit de faire bien attention. Pour la première fois depuis mon entrée, je commençais à comprendre pourquoi. Dans le regard de Marcel, j'arrivais à y voir les ténèbres. J'avais jamais rien vu d'aussi noir. Quand il a aperçu que je brandissais une croix vers lui, c'est là que j'ai compris que Maurice pouvait bien souffrir de problèmes mentaux de négligence, mais qu'il souffrait définitivement de quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus grave. Ses yeux sont devenus blancs comme neige, puis il a ouvert la bouche tellement grand que j'ai cru qu'il allait se déboîter la mâchoire. Il a hurlé d'une voix creuse, sombre, presque ancienne. Il a hurlé comme ça pendant au moins 45 secondes sans jamais reprendre son souffle. C'est long, 45 secondes. Mon confrère a commencé à réciter notre père. J'ai fait pareil, puis Maurice, il s'est mis à se gratter le visage jusqu'au sang. À ce moment-là, il a vivement tourné la tête et a regardé mon confrère droit dans les yeux. D'une voix creuse, ténébreuse, il a hurlé d'arrêter de parler. Ne pas écouter. Il s'est jeté en bas du lit, puis il s'est mis à se diriger vers nous, mais à quatre pattes. Mon confrère et moi, on s'est regardé l'espace d'une seconde, terrifiés. J'ai sorti la grosse croix, puis je l'ai accompagné de ma grosse voix. J'ai récité une prière en latin. Les démons, ils aiment pas le latin. Maurice n'a pas aimé ça non plus. Il a crié plus fort, il a crié plus longtemps, puis comme si c'était possible, il a crié d'une voix de moins en moins humaine. Il s'est arrêté net dans son cheminement vers nous, à cause de la grosse croix, puis de ma prière. Ça marchait trop bien. Ça fait qu'on a continué. On a crié même. Puis là, Maurice s'est mis à vomir. C'était brun. C'était foncé. Ça puait. Ça puait beaucoup. Les parents de Maurice ont entendu la commotion. Ils sont montés à l'étage sans complètement s'y aventurer. Je les ai vus. L'éclair d'une seconde, en train de se tenir en haut de l'escalier, comme s'ils étaient en train de s'accrocher l'un à l'autre, complètement apeurés devant l'horreur que leur fils vivait. Ça a duré peut-être 3 minutes, mais c'était comme si ça avait duré des heures. Maurice a continué de crier, de vomir un peu, mais surtout de se griffer le visage comme s'il n'y avait pas de lendemain jusqu'à ce que tout s'arrête. Il a perdu connaissance pendant quelques secondes et il s'est mis à convulser. À ce moment-là, les parents n'ont pas hésité une seconde et ils sont montés dans la chambre et ont pris leur fils dans leurs bras. Ça m'a touché. Quand Maurice a ouvert les yeux, il était brun, fatigué, mais vivant. C'est après avoir croisé son regard là, dans les bras de ses parents inquiets, que j'ai compris que je venais d'exorciser mon premier et mon seul démon de toute ma carrière. Ça m'a pris quelques années pour comprendre l'ampleur de cet événement et les effets que ça a eu sur moi. Aujourd'hui, je peux dire avec une grande fierté que j'ai littéralement regardé le diable droit dans les yeux et que je lui ai dit d'aller voir ailleurs. On parle des fois des difficultés d'être une personne qui n'entre pas dans les standards de la société, mais on passe souvent sous silence les problèmes qui viennent avec le fait de bien paraître. Ce qui est souvent un privilège peut rapidement se transformer en malédiction. Je suis belle, puis je sais parce qu'on n'arrête pas de me le dire. Surtout, on n'arrête pas de me réduire à mon apparence. Vous devriez voir la surprise sur le visage des gens quand ils se rendent compte que je sais c'est quoi l'ONU puis que je suis capable de faire mes impôts. C'est à croire que tout le monde pense que j'ai la tête vide à défaut d'avoir une poitrine pleine. Outre le fait de constamment me faire sous-estimer, il y a aussi le fait que j'ai jamais la paix. Aller profiter d'un bon livre dans un café sans me faire demander « Il est où mon petit chum? » Impossible. Marcher dans la rue sans me faire arrêter? Inédit. Je comprends qu'on dirait que je chiale la bouche pleine, mais je chiale surtout avec le cœur lourd. Je suis tannée d'être réduite à mon apparence physique. Puis ma beauté m'a fait payer un prix très cher l'Halloween dernier. Justement, parlant de beauté, je suis représentante marketing dans une compagnie de beauté assez populaire. On va dire qu'elle commence avec O puis qu'elle finit avec Al. J'ai la chance incroyable de pouvoir bénéficier d'un mode de travail hybride et donc de passer la majorité de mon temps en télétravail. Mon coin préféré pour travailler, c'est pas chez moi, c'est dans un café. On est montréalaise ou on l'est pas. Ce jour-là, faisait pas coutume, j'étais en train d'écouter grossièrement une réunion, on va se dire, assez inutile, tout en mettant à jour ma dernière campagne marketing quand quelqu'un s'est assis à ma table. Le culot, c'était un homme. Il avait l'air dans la quarantaine, mais il avait aussi l'air de sortir de quarantaine, tellement il était sale et pitoyable. J'arrivais à voir la saleté mijoter dans les pores de sa peau souillée. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est assez habituel de me faire aborder par tout genre de gens. Donc, j'ai tout simplement lancé un regard rempli de détresse vers la barista, mais j'étais tellement concentrée à préparer un latte qu'elle m'a même pas remarqué. Le quarantineux m'a demandé son nom, puis j'ai pas répondu. Il a répété, j'ai continué d'ignorer. Ça l'a fâché. Il s'est levé de table. Et il a crié très fort dans le café que j'étais une maudite salope et que j'allais le payer. À ce moment-là, l'employé a remarqué ce qui se passait. Il a décroché de son latte et il s'est approché de la table. Il m'a demandé si je connaissais le quarantineux et quand j'ai dit que non, il l'a fait sortir assez rapidement. Moi, honnêtement, j'étais assez refroidie, donc j'ai rangé mon ordinateur, mes notes. J'ai pris le chemin du bureau. Et ben, je suis allée travailler le reste de ma journée. J'aurais pu aller terminer ma journée chez moi, mais j'ai comme eu une petite intuition qui me dit qu'il y avait des chances qu'ils se mettent à me suivre. Je me suis donc dit que ben, s'ils me suivaient jusqu'au bureau, ils pourraient de toute façon pas passer la sécurité, puis ben, ça me sécurisait beaucoup. J'ai continué de penser à cette drôle d'altercation une bonne partie d'après-midi, mais quand j'ai passé la porte à 18h passées, c'était déjà assez loin dans mon esprit. Je suis rentrée chez moi, j'ai cajolé mon chat, j'ai nourri mon chien, je me suis commandé des sushis, je me suis servi un bon verre de vin, puis je me suis lancé un épisode de Game of Girls. On est une femme célibataire dans sa trentaine ou on ne l'est pas. Après avoir bu la moitié, bon, le trois quarts, de la bouteille et manger l'entièreté de mes 25 sushis, j'ai enfilé mon pyjama et je me suis assise dans mon coin préféré de mon divan, collée entre mon chat et mon chien, prête à continuer mon marathon Gilmore Girls. Là, j'ai eu un sentiment vraiment bizarre, celui d'être observée. Vivant dans un sous-sol à Montréal et étant sur le niveau du trottoir, c'est un sentiment qui m'est assez familier, donc je me suis tout simplement levée, j'ai fermé mes rideaux, mais le sentiment est resté. J'arrivais plus à me concentrer sur mon épisode, donc j'ai pris la décision d'aller me servir un autre verre de vin, qui était probablement une mauvaise idée, mais bon, j'avais clairement besoin de me relaxer parce que pour une raison inconnue, je me sentais vraiment stressée. De retour sur mon divan, j'ai pris mon téléphone et j'ai opté pour une bonne séance de scrolling sur TikTok. J'en étais à ma 10e vidéo quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, donc j'ai ignoré. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une drôle d'angoisse me prendre d'assaut. Sans vraiment comprendre pourquoi, cet appel-là me glaçait le sang. Le sentiment s'est accentué lorsque le même numéro m'a retéléphoné pour une deuxième fois. Puis une troisième. La quatrième fois, j'ai hésité avant de décrocher, mais j'ai tout de même glissé mon doigt et j'ai accepté l'appel. J'ai rien dit, j'ai juste écouté. « Madame Vézina, c'était une voix officielle, sécurisante. « Oui, c'est moi. » Il s'est présenté. « Agent Karl Meyer. » Il m'a dit qu'il était en avant de chez moi. Je suis allée regarder, puis C'est vrai, il y avait un auto de police en avant de chez moi avec les gyrophares allumés. Je suis sortie vraiment confuse et c'est là qu'il m'a expliqué. L'homme du café m'a bel et bien suivi. Il s'est caché durant toutes les heures que j'ai passées au bureau à travailler. Le tout pour me suivre lorsque j'ai fait le chemin vers mon appartement. C'est une voisine qui m'a reconnue au loin et qui sait très bien que je suis célibataire. Et elle s'est posé des questions lorsqu'elle a vu un homme errer près de mon appartement. Plus précisément, regarder dans mes fenêtres. Elle a gardé l'œil ouvert et elle a remarqué que l'homme s'est caché dans mes décorations d'Halloween pour pouvoir avoir un meilleur angle de vue dans mon appartement. À ce moment-là, elle a pas hésité et elle a téléphoné les policiers. L'agent Carl Meyer n'était pas en mesure de me confirmer les intentions de l'homme, mais il m'a dit qu'il était armé d'un petit couteau suisse et que, s'il avait bien été utilisé, il aurait pu me blesser assez sérieusement. J'attends encore la date de comparution pour pouvoir témoigner contre lui, mais en gros, j'ai failli être agressée, voire peut-être même assassinée par un homme qui s'était caché dans mes décorations d'Halloween, le tout parce qu'il me trouvait belle. À ce qui paraît, le cerveau efface des souvenirs quand ils sont trop durs à porter. Faut croire que mon cerveau de petite fille de 5 ans a voulu me protéger parce que j'ai aucun souvenir d'avoir vécu cette horreur. J'avais 13 ans lorsque j'ai été confrontée à ces souvenirs-là pour la première fois. Afin de célébrer Halloween, qui est la fête favorite de mes parents depuis la nuit des temps, on a invité des anciens voisins à venir souper dans notre nouvelle maison. Ça devait faire un bon 4-5 ans qu'on n'avait pas passé une soirée en compagnie des Goudreau, mais ça faisait vraiment du bien de les revoir. C'est des gens bien, des gens chaleureux, des gens qui sont un peu l'équivalent des humains câlins. On était arrivés au moment de la soirée où mes parents avaient bu trop de vin comme leurs invités, et drôlement, c'est toujours le moment qui, moi, m'excitait plus. C'est l'heure des potins et des histoires d'horreur. Ce sont mes voisins qui ont lancé le coup d'envoi des histoires de peur cette année-là. On est assez intense dans ma famille, alors on éteint toutes les lumières, on passe une lampe torche, mettant un cellulaire, à la personne qui raconte l'histoire, et on lui demande de s'illuminer le visage. Question de rendre le tout plus lugubre. Honnêtement, ça marche. Ça fait très peur. Jacqueline était au beau milieu d'une histoire assez rocambolesque et honnêtement assez cliché, quand elle s'est brusquement arrêtée en avalant un sursaut. Oh mais non! J'ai complètement oublié de vous dire ça! C'est à ce moment-là qu'elle a interrompu son récit pour pouvoir en raconter un autre bien, bien plus horrifiant. Te souviens-tu, Clara, comment t'avais peur du petit garçon dans ta garde-robe? Ben, les nouveaux voisins, ils arrêtent pas de se plaindre de la même affaire. Apparemment que la petite aussi, elle voit un garçon qui existe pas. Ma mère a fait de gros yeux et m'a rapidement chassé de la table, mais le mal était fait. J'étais officiellement intriguée. Les voisins ont fini par quitter la maison, mais les mots de Jacqueline, eux, ils m'ont jamais quittée. J'ai attendu quelques jours et puis j'en ai reparlé avec ma mère au beau milieu d'une séance de thé camomille dans notre jardin. Elle m'a demandé si je voulais vraiment, vraiment connaître la vérité et elle m'a averti qu'une fois que je la connaîtrai, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. J'ai pas hésité une seule seconde. Je me devais de savoir. J'ai manqué une bonne occasion de me fermer la gueule et de pas être curieuse. Ma mère m'a ensuite expliqué que pendant 5 années de ma vie, j'avais un meilleur ami particulier. J'avais justement à peine 5 ans lorsqu'on est déménagé dans cette petite maison que moi, je trouvais adorable. C'est probablement dû à mon âge précoce que ma mère ne s'est pas inquiétée quand je lui ai dit que j'avais un nouvel ami qui était principalement résident de ma garde-robe. C'est pas plus mise à être inquiète quand je me suis mise à passer le plus clair de mon temps en la compagnie de mon ami imaginaire et que je me suis mise à me parler toute seule.
quel enfant n'a pas déjà eu un ami imaginaire, surtout dans un contexte où tu viens de déménager, les vrais amis sont maintenant bien loin. Ma mère, elle s'est pas inquiétée, même lorsque mes poupées ont commencé à bouger par elles-mêmes et que je m'en suis plaint. Quand elle a commencé à entendre des bruits de pas à l'étage alors qu'on écoutait la télévision au salon ou que j'étais bien endormie, elle s'est inquiétée. Quand ses propres décorations, ses livres, ses objets personnels se sont mis à être déplacés dans la maison sans explication, elle s'est encore plus inquiétée. Un soir, elle m'a mise au lit. Elle est descendue à l'étage vaquer à ses occupations. Elle a frissonné en me racontant cette soirée-là et je dois avouer que je suis très reconnaissante de ne pas m'en souvenir. Environ 2 heures après m'avoir bordée, elle m'a entendu crier fort, très fort. Quand elle est entrée dans ma chambre, elle m'a raconté avoir vu une paire de fesses assises sur mon lit, mais pas de corps. La personne invisible semblait être assise juste à côté de moi. Apparemment, je lui aurais dit que le petit garçon me criait dans les oreilles et que ça me fait mal et que ça me fait peur. Cette nuit-là, ma mère me fait dormir avec elle dans son grand lit. Et il paraît que le petit garçon s'est calmé par la suite, malgré le fait que des pas continuaient de se faire entendre dans la maisonnée et que des objets continuaient de se faire déplacer. Un jour, alors que ma mère était seule à la maison, en train de savourer un bon verre de vin et la solitude qui vient avec le fait d'être une mère enfin seule, elle est en train d'écouter son vinyle fétiche quand il s'est mis à tourner à l'envers. À ce moment-là, ma mère a été terrifiée. Elle a crié : Non, mais tu me lâches, maintenant, ma fille aussi. Sinon, je te promets que lorsque je serai morte, je te retrouverai. Apparemment qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais eu d'événements étranges et mon cerveau a complètement effacé l'existence du petit garçon de ma mémoire. Du moins, jusqu'au jour où notre ancienne voisine nous a confirmé que les nouveaux résidents étaient aux prises avec le même problème. Au final, j'ai cohabité avec le potentiel esprit d'un petit garçon. Comme mentionné au début de cet épisode, parmi ces 3 histoires, l'une d'entre elles était vraie. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir avant de vous donner la bonne réponse. La vraie histoire était la dernière histoire. L'aurez-vous deviné? Écrivez-nous dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à aller nous laisser une note de 5 étoiles si ce format vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant cette saison lugubre, cette spooky season. Merci beaucoup de votre patience avec moi dans les dernières semaines. Merci beaucoup d'avoir laissé le flambeau à Noémie, qu'il le prie avec brio et on a simplement hâte de vous retrouver pour la suite des choses et pour toutes les belles aventures que réserve Crime et Cocktail à nos auditeurs.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Berceuse dans le noir de Crime et Cocktail.
Cheers, guys!
Chin chin!